Bienvenue sur Cité Culture, une émission culturelle de Radio Cité produite par Jacques Magnol et réalisée aujourd'hui avec Laurence de Coulon et Elena de la Rosa. Aujourd'hui, nous recevons deux invités pour parler des arts de la scène avec la danseuse et chorégraphe Kylie Walters qui présentera sa dernière création la semaine prochaine au Théâtre du Galpon. Nous recevons également Michel Deutsch qui a mis en scène Heiner Müller pour le Théâtre de Saint-Gervais. Cinéma ensuite, à l'occasion des projections de films indiens à la maison du Grütli, Elena de la Rosa a rencontré Maya Karlinski, conservateur du musée d'ethnographie. Nous terminerons avec des nouvelles d'événements musicaux et de théâtre. Commençons par la danse contemporaine avec Jacques Magnol qui reçoit Kylie Walters.
Aujourd'hui, nous sommes avec Kylie Walters, une artiste australienne qui est installée depuis 1996 à Genève. Chorégraphe et danseuse, elle s'est fait récemment remarquer lors de ses collaborations avec les compagnies Alias et DV8 Physical Theater et les artistes Miranda Pennell, Nicole Saylor et Jeremy James. Kylie Walters a également joué dans deux films de Pascal Magnien. Sa dernière création, Sweet Hypochondria, est présentée au Théâtre du Galpon, qui se trouve sur le site d'Artemis, boulevard Saint-Georges, et est présentée jusqu'au 6 février. Le son que vous entendez actuellement est extrait de la musique de Sweet Hypochondria. Kylie Walters, comment une danseuse australienne atterrit-elle sur la scène de la danse à Genève ?
Bonjour. En fait, par audition, j'habitais à Amsterdam et j'étais à Londres pour faire des spectacles. Il y avait une audition pour une compagnie basée à Genève, Alias Company. Et je me suis présentée, j'étais prise et je me suis trouvée à Genève. Alors, c'était pas du tout prévu dans ma tête de venir travailler ici. C'était surtout que j'avais vu un spectacle de cette compagnie qui j'avais trouvé forte et... Voilà, c'était Laza, heureuse.
La danse suisse bouge beaucoup depuis près de 15 ans et les troupes, les artistes voyagent de plus en plus. Vous êtes donc pratiquement reparti pour vous produire à l'étranger ?
Beaucoup, oui. Beaucoup avec Alias Company au Japon, en Afrique du Sud, en l'Europe l'Est, l'Hongrie. On n'est jamais allé en Australie. Qui est dommage. Et sinon, avec Nicole Saylor, ça commence à tourner beaucoup aussi, beaucoup en Suisse. Ça n'arrête pas.
Et vous avez remarqué que le public recevait différemment les œuvres que vous présentez, selon les
régions. Oui, selon le pays, selon les cultures. Je pense que c'est normal. On a fait beaucoup en Moyen-Orient, le Syrie, le Liban. Alors, c'est une différente perception des sujets ou des thèmes de la pièce. En pays de l'Est aussi, c'est un public très cultivé, très intellectuel, je dirais. Ils ont beaucoup l'habitude à voir des pièces de théâtre, je pense. Alors des fois, on faisait des questions-réponses, des séances avec le public après, et j'étais très étonnée, très content avec les niveaux de questions posées.
Et vous recevez un accueil aussi chaleureux à Genève ?
Ouais, très chaleureux. Ouais. Je rencontrais des gens formidables ici, vraiment.
Kylie Walters, après avoir chorégraphié 4 pièces pour des espaces non théâtraux, c'est la première fois que vous créez une chorégraphie solo pour une scène de théâtre.
Ouais.
Quelle est la particularité de ce travail ?
Je dirais que pour moi, c'était important comment je pourrais intégrer le public, les gens qui viennent voir cette pièce, parce qu'une espèce théâtrale où c'est frontal, parce que je voulais jouer avec cette code théâtrale pour cette fois-là. Ça peut mettre une distance, ça peut faire que le public est plus distant de le spectacle. Les pièces que j'avais fait avant, c'était dans les rues, c'était dans une galerie d'art, c'était pour un défilé de mode. Et c'est un autre rapport avec le public parce qu'ils m'entouraient ou ils étaient très... je leur posais des questions et tout ça. Alors, c'est plutôt ça, comment on établit ce rapport avec le public qui est déjà très codifié, très set quelque part.
Et pour Sweet Hypochondria, comment avez-vous créé le nouveau personnage que vous incarnez? Est-ce que vous l'avez imaginé d'après une observation de la réalité des gens existants réellement?
Je trouvais ça assez drôle parce que quand on danse, souvent les danseurs, ils sont très préoccupés avec leur corps. Alors, c'est toujours « Ah ouais, j'ai mal au dos ». Et aussi, je trouve qu'aujourd'hui, on a tous la tendance à exagérer le côté corporel. Genre, j'ai vu de plus en plus de monde qui touche le yoga, le shiatsu, plein de thérapies alternatives pour essayer de récupérer leur corps quelque part. Parce que tu deviens de plus en plus mental, plus en plus des gestes tout simples. Et on a un besoin d'un coup de reconnecter avec le corps. Et souvent, ça tombe, moi, je remarquais, dans une attitude un peu exagérée, maladive presque.
C'est une sorte d'angoisse par rapport à la santé, par rapport
au
corps.
Oui, des fois, c'est le moindre petit douleur. Ça nous fait flipper aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude d'aller courir pendant une heure et demie en train de lever des choses lourdes. Et d'un coup, ça, si on est assoufflé, ça nous fait peur. Que, en fait, souvent, c'est un truc logique qui arrive avec le corps.
Et ces états, ce sont ceux que vous avez voulu reproduire dans le personnage?
Oui, c'est un personnage quand même extrême dans le sens qu'elle imagine plein de choses et ça fait des effets sur son corps. J'étais très intéressée comment on peut penser quelque chose et comment ça a un effet physique après. Voilà, on peut imaginer plein de choses, des crises, de respiration, des choses qui sont intéressantes pour une danseuse parce que c'est pas des états, on travaille normalement dans le danse. Voilà.
Mais votre précédent personnage dans Madame K était déjà celui d'une femme qui fuyait son imperfection. Est-ce que le nouveau personnage maintenant, il est en relation avec le précédent?
Je pense pas du tout, parce que Madame K, elle était très occupée avec son surface, comment elle se présente au monde. Lana, le personnage dans Sweet Hypochondria, elle est dedans, elle. Elle est très occupée avec son corps. Et qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Madame K, elle était plutôt qu'est-ce que le surface, le visage de son corps peut dire à des gens à l'extérieur. C'était plutôt sur l'apparence. Sweet Hypochondria, c'est plus l'intérieur du corps.
Les névroses,
c'est des problèmes, on a, voilà.
Vous l'avez en somme gratifié de toutes les angoisses que l'on peut avoir ressentir actuellement?
Beaucoup des épidémies, tous les problèmes avec le SRAS. Il y a plein de choses qui nous fait peur, des choses comme des thromboses quand on prend les avions, que voilà, tout le monde est assez consciente de ne pas manger de la viande, de bœuf. Ça passe dans des cycles, c'est voilà.
Cette femme est une femme qui souffre.
Ouais.
Est-ce qu'elle a une chance de s'en sortir?
Je pense que oui, parce que quand même à la fin, je pense qu'elle arrive à un moment où elle dit, alors, je pense que ça suffit. Je suis où? C'était quoi ce délire? Et en fait, les hypochondriaques, ils peuvent s'en sortir. Des fois, ça prend longtemps, mais on reste pas avec ça pour la vie. Il faut un travail, mais on peut s'en sortir. Je pense que ça, c'est très important, qu'on n'est pas obligé de rester dans sa tête, dans son nombril presque.
Mais pour incarner ce personnage et puis reproduire sa lutte contre les angoisses, vous êtes lancé dans un très grand engagement physique.
Oui.
Par moments, le rythme s'accélère, c'est un son, une musique qui amène presque le spectateur à être essoufflé lui aussi.
Ouais, ouais.
Par exemple, on va écouter un extrait. À ce moment-là, vous êtes essoufflé. On a l'impression que vous cherchez à pousser le corps dans un effort extrême.
Oui. J'ai trouvé ça important que si on joue quelqu'un qui a des problèmes avec son corps, et que c'était important que moi, j'expérience ces choses pour de vrai, sur scène. Sinon, ça devient une mauvaise mime. Déjà, c'est faux. Elle est faux, mais elle croit que c'est vrai, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, je me pousse dans presque, comment on dit ça en français, l'hypoventilation. J'essaie de pousser mon corps jusqu'au moment où je peux plus contrôler la respiration. C'est assez flippant.
Donc, à un moment, vous arrivez, vous avez véritablement perdu le contrôle.
Je peux plus respirer. J'essaie de me pousser jusqu'à ces points-là. Et c'est intéressant. Parce que comme ça, je peux jouer avec le contrôle corporel et après, dans des états où je suis complètement au contrôle de mon corps, qui est assez intéressant en live. Je pense que comme ça, le public, il voit vraiment un engagement avec ça, qu'on est tout de suite plus prise dedans quand on sent qu'il y a quelqu'un qui expérience vraiment un état. Je ne suis pas juste en train de le jouer.
Donc vous êtes véritablement à un moment angoissé aussi.
Très angoissé, ouais. Ouais, des fois j'ai peur que j'arrive pas au bout de cette séquence. Ouais.
Et dans ces séquences, vous avez mélangé des moments de mouvement dansé,
oui,
et d'autres qui relèvent plus du geste quotidien.
Ouais.
Qui parlent différemment au public.
Ouais, ouais. Je suis très intéressée comment on envisionne le mouvement. Je pense qu'il y a plein de mouvements en fait dans le quotidien. Il faut juste les extraire légèrement plus loin et ça devient une danse magnifique. Alors des fois j'aime bien que je pas des mouvements que on puisse tous reconnaître, on regarde, ça a du sens, et petit à petit, parce qu'on sent qu'on connaît cette mouvement, on peut aller beaucoup plus loin d'un coup, au lieu de commencer baf direct avec l'abstraction, ou des fois ça distanciait les gens tout de suite. Je préfère qu'on reconnaît des choses et après on peut aller beaucoup plus loin, je trouve.
Mais à la fin de ce processus qui met le corps dans un état d'épuisement extrême, le calme revient. Et votre personnage a-t-il réussi à ce moment à se débarrasser de ses craintes? C'est ce que vous voulez montrer.
Oui. C'est une calme qui est quand même très lourde. Moi, j'appelais ça le chronic fatigue syndrome, où quand on est tellement épuisé... Le mononucléose, on dit en français. Quand on a une telle lourdeur, c'est une calme quelque part, mais c'est une calme qui est presque... C'est pas agréable quelque part. Alors elle retrouve une état qui est moins hystérique, moins poussé, mais en même temps c'est comme une autre... Le bascule de l'autre état.
C'est aussi un moment où le spectateur peut se reposer, être,
oui,
plus sensible à la poésie qui,
je
quand
pense,
même ressort.
Le spectateur peut flotter un peu à ces moments. Il y a des formes qui se produisent, qui disparaissent, il y a des photographies magnifiques. Au même temps, il y a beaucoup à voir, mais c'est plutôt, ça coule. C'est moins speed, ouais.
Mais malgré cette impression de situation extrême qui pourrait faussement faire penser qu'il s'agit d'un spectacle angoissé, il y a quand même, il est fortement empreint de poésie.
Oui, oui. Je pense qu'il faut quand même... c'est pas juste l'angoisse. Pour moi, c'est une pièce qui parle des mensonges. On peut nous raconter nous-mêmes. Ouais, des mensonges vitaux qu'on utilise pour créer nos vies, nos personnalités, nos relations l'un avec l'autre. Alors c'est pas juste les angoisses, justement. Ça, c'est une façon théâtrale de faire passer le message plus dramatiquement, on pourrait dire. Ouais.
Vous avez aussi inséré des projections photo et vidéo du multimédia.
Ouais.
C'est quelque chose qui vous apporte un nouvel environnement. Comment est-ce que vous établissez le dialogue avec l'objet technologique?
En fait, au tout début de ces projets, je commençais à travailler avec une photographe espagnole, Erika Eamla. Et j'avais vu des expositions de ses photos que je trouvais très troublantes, très beaux. C'était presque comme des films, une image que tu peux déjà imaginer plein de choses qui passent dedans. Et pourtant, c'est une image qui bouge pas. Alors, on a commencé déjà à travailler en photographie cette personnage dans des différents lieux, dans des lieux où on n'imagine pas trouver un hypochondriaque. Et à partir de ça, j'ai développé le mouvement plus. Et après, voilà, on a incorporé ça comme ça. Mais c'est vraiment à la base du projet, travail avec le photographe. Avec les vidéos, c'était plutôt, j'utilise des mots comme une poésie, plus pour donner l'impression de l'intérieur, qu'est-ce qui roule dans sa tête. C'est tout un dialogue qui arrête jamais. Alors voilà, j'ai utilisé beaucoup les mots qu'on voit pas souvent dans le danse, je trouve. Alors ça donne un contexte aussi pour approcher.
Et la musique a été créée en collaboration. Le développement s'est fait en même temps que vous développiez la chorégraphie.
La musique, je travaille avec Serge Amaka qui fait le bon son. Et je dirais que plutôt c'était des musiques que j'ai essayé. Des fois, on a changé complètement la musique pour donner différentes couches. Mais c'était plutôt vers la fin de le processus que j'ajoutais la musique, parce que je voulais pas trop être influencée par une rythme ou une beat. Je voulais plutôt trouver ça corporellement d'abord, et après essayer de trouver des musiques qui pourraient amener ça plus loin, ou dans une autre direction carrément.
Quels sont maintenant vos projets?
Alors je finis le saison là au Galpon, et après je repars pour Londres où je fais le tournée avec la compagnie Deviate Physical Theatre. Alors on va au Taïwan, à Séoul, en Europe, beaucoup. C'est un tournée qui dure jusqu'à la fin de l'année 2005.
Et voilà. Vous allez collaborer aussi avec le Grand Théâtre de Genève?
On vient avec Just for Show, le pièce de Deviate, je crois que c'est en mai. Alors voilà, au Grand Théâtre aussi.
Kili Walters, qu'est-ce que nous écoutons actuellement?
Ça, c'est un moment dans la pièce que je l'appelle le chronic fatigue syndrome. C'est un moment un peu plus calme dans la pièce où on a des images photographiques, et moi qui bouge très lentement.